C'est un conflit dont vous entendez peu parler dans les médias. Celui qui, depuis un an maintenant, oppose deux généraux au Soudan. Il y a peu d'images, peu de récits journalistiques, peu de sons, et pour cause, comme pour la population, les menaces qu'encourent les journalistes sont telles qu'exercer son métier, c'est prendre un risque pour sa vie. Mais comment informer, comment raconter et avec qui ce qui se passe depuis le 15 avril 2023 dans ce pays ? Le troisième plus grand d'Afrique, dans lequel on ne peut se rendre, où les coupures d'Internet sont de plus en plus nombreuses et longues, et qui a déjà connu des décennies de guerre civile, notamment dans la région du Darfour. Alexandra Branjon, qui est journaliste au service Afrique de RFI, a accepté de me répondre. De Paris, elle couvre cette zone, comme on dit. C'est un pays qu'elle connaît et dans lequel elle s'était rendue en 2019, au moment de la révolution qui s'est achevée par la destitution du président Omar el-Béchir. Ces deux généraux qui s'opposent s'appellent Bourane et Emeti. Autrefois amis, ils sont aujourd'hui rivaux. Abdel Fattah al-Bourhan, c'est le chef de l'armée régulière. Et Mohamed Hamdan Dagalo, que l'on surnomme Emeti, lui, c'est le chef des forces paramilitaires de soutien rapide. Les deux camps s'affrontent de manière extrêmement violente et les combats déstabilisent tout le pays qui compte aujourd'hui plus de 6,5 millions de déplacés internes sur une population initiale de quelque 46 millions d'habitants. En revanche, m'a confié Alexandra, le nombre de morts depuis un an est, lui, difficile à évaluer. Bonjour Alexandra.
Bonjour.
Pourquoi ce nombre de personnes décédées depuis le début de cette guerre civile, il y a donc un an, pourquoi est-ce qu'il est si difficile à connaître? C'est vrai que moi, en faisant des recherches, j'ai lu des chiffres extrêmement différents.
Tout simplement parce qu'il n'y a personne sur place, aucun journaliste, aucun humanitaire. Ce qu'il faut voir, c'est que dès le début de la guerre, dès le premier jour, les frontières sont fermées, l'aéroport est fermé et les combats, notamment dans Khartoum, sont tellement intenses que personne ne peut sortir, personne ne peut se promener dans la rue. Donc tout se fait éventuellement par téléphone pour savoir est-ce que dans ton quartier il y a des morts, est-ce qu'il y a eu des bombardements. Pour donner un exemple, tout début de la guerre, quand ça a démarré donc le 15 avril, on avait un correspondant sur place, Elliot Brachet, qui était dans son appartement et dans les jours qui ont suivi, il essayait de sortir, il pouvait aller dans l'immeuble d'à côté, mais pas beaucoup plus loin parce que ça tirait tellement. Et puis quelques semaines après, il y a eu une évacuation massive de tous les citoyens, donc citoyens français, anglais, américains. Tout le monde est parti. Toutes les chancelleries sont parties, les journalistes, tous les gens qui vivaient. Donc il n'y a eu plus personne. Même les humanitaires sont partis. Il n'y a eu plus personne dans le pays. Donc impossible de savoir, déjà ce qui se passait, combien de gens étaient morts. La seule façon dont on arrivait à avoir des informations, c'était avec les Soudanais sur place qui, eux, étaient relativement bien organisés, les syndicats de médecins, des syndicats ou des regroupements de quartiers qui arrivaient à faire remonter l'information. Et là, on avait à peu près une idée. Alors, dans tel endroit à l'est de Khartoum, il y a eu un bombardement et selon les médecins, il y a 20 morts. En additionnant tout ça, on avait à peu près une idée globale, mais ça, c'est juste sur Khartoum. Sur le reste du pays, c'était impossible à faire. Donc oui, même aujourd'hui, un an après le début de la guerre, on ne sait toujours pas combien il y a de morts.
Ces deux généraux qui s'affrontent, ils s'affrontent sur quoi? Qu'est-ce qui les oppose? On est réellement sur une guerre ethnique?
Non, c'est plutôt une lutte de pouvoir. Comme tu le disais, il y a deux forces en présence. D'un côté, les forces armées du général al-Bourhan. De l'autre, les forces paramilitaires du général Emeti. Et il s'agit de deux forces rivales. Quand l'ancien président est destitué, donc Omar el-Béchir en 2019, ces deux généraux s'allient, cohabitent pour rester au pouvoir. Et au fur et à mesure, cette cohabitation ou cette alliance se dégrade. Les deux hommes sont rivaux, veulent le pouvoir. Et donc, petit à petit, vont commencer à s'affronter jusqu'au jour où la tension est tellement élevée que les troupes des deux côtés s'affrontent dans les rues de Khartoum. Et de là démarre la guerre qui va petit à petit s'étendre au reste du pays.
D'où ces chiffres aussi qui sont assez impressionnants. Plus de 6,5 millions de personnes qui sont déplacées à l'intérieur du pays. 1 800 000 qui ont rejoint les pays voisins, c'est énorme.
C'est énorme. Et une fois de plus, c'est à l'image de la violence de cette guerre. Quand on voit des photos de Khartoum, le centre de Khartoum aujourd'hui, c'est les images qu'on a de Beyrouth, de Gaza. C'est une ville qui est complètement rasée. Donc impossible de vivre. Là aussi, on n'a aucune idée de combien d'habitants vivent encore dans Khartoum, et notamment dans Khartoum centre. La ville est tellement rasée que tous ceux qui étaient dans le centre sont partis. Alors ils sont partis en banlieue, sont partis dans la ville un peu plus loin, sont partis à l'étranger. Selon les moyens financiers que les gens avaient, ils ont fui plus ou moins loin. Dans le reste du pays, et notamment au Darfour, là c'est presque une autre guerre, où ce sont des villages entiers qui ont été rasés, donc toute une population, tout un village fuit.
Et j'en avais parlé dans Témoins d'actu avec Carole Valade, qui s'était rendue à la frontière du Darfour, frontière côté Tchad, et qui avait rencontré tous ces déplacés. Les récits étaient assez terribles. Est-ce que l'aide humanitaire, Alexandra, aujourd'hui, elle arrive en terre soudanaise ou pas?
Un an après, c'est encore très très difficile. Les organisations onusiennes ont tenté de mettre en place des couloirs humanitaires pour faire venir l'aide. Normalement, l'aide, elle arrive aussi par avion. Or, l'aéroport de Khartoum est en plein centre-ville. Donc, quand ça tire, c'est juste pas possible de faire atterrir un avion. Donc là, il fallait faire atterrir à Port-Soudan, qui est complètement à l'est du pays, et par la route, arriver jusqu'à Khartoum. Or, pour ça, il faut un corridor humanitaire. Et à chaque fois qu'il y a eu des tentatives d'établir ce corridor, les deux généraux ont dit oui, et dans un premier temps, et puis très rapidement, les combats reprennent. Et donc, il n'y a jamais vraiment eu d'aide, ça a été très ponctuel. Il y a eu des moments où il y a eu une accalmie, où l'aide a pu arriver à Khartoum, mais rien par rapport aux besoins. Et au Darfour, alors là, c'est une autre problématique, là, c'est la même chose, c'est pour venir du Tchad au Darfour, il faut pouvoir rentrer, il faut pouvoir passer dans des zones qui sont contrôlées par l'armée, d'autres qui sont contrôlées par les forces de soutien rapide. Et là aussi, il y a une guerre sur cette aide humanitaire. C'est qui contrôle cette aide? Par exemple, les militaires n'ont pas envie que l'aide humanitaire aille dans les zones contrôlées par les forces de soutien rapide et vice-versa. Donc aujourd'hui, même sur le Darfour, il y a très peu d'aide qui arrive parce qu'à chaque fois, il faut arriver à négocier avec les deux camps pour que l'aide puisse, un, rentrer et deux, où aller et à qui être distribuée.
On comprend que tous ceux qui ont pu fuir ont fui. Du coup, moi, ce que je voudrais comprendre dans cet épisode, c'est comment, puisque sur RFI, on en parle du Soudan, comment toi, tu arrives à recueillir des informations pour savoir ce qui se passe dans le pays et par qui? J'imagine que ça prend beaucoup de temps de recueillir tous ces témoignages.
Déjà, c'est des contacts. Hein. J'y suis allée, je couvre cette zone depuis 4 ans, donc j'ai quand même un nombre de contacts assez important. Et au début de la guerre, l'Internet, le téléphone marchait encore. Donc, j'appelais. Alors, Ahmed, toi, tu es dans tel quartier, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, au départ, c'était comme ça. Et au fur et à mesure, en effet, c'est devenu de plus en plus difficile parce que beaucoup de gens sont partis, y compris les gens à qui je parlais. Donc, j'avais pas de nouvelles pendant plusieurs semaines. Et puis, tout d'un coup, ça marchait de nouveau. Ils m'envoyaient un WhatsApp. Ah ben non, j'ai fui, je suis en Égypte. Bon, et est-ce que tu connais encore des gens sur Khartoum? Ah ben oui, tiens, j'ai mon cousin, il habite dans tel quartier. Tiens, essaye, voici son numéro. Donc voilà, ça, c'était la façon de suivre. C'était via ses contacts, via Twitter aussi. Parce que tant qu'il y avait Internet, les Soudanais voulaient vraiment parler. Et donc, poster sur Twitter des photos de ce qui se passait dans leur quartier, leurs cousins à qui était arrivé telle chose, voilà.
Les gens, quand ils te parlent, ils prennent un risque aussi pour leur vie ou pas?
Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, bien souvent, je ne donne pas le nom entier, je donne le prénom. Et je dis, il habite dans tel quartier ou elle habite dans tel quartier, mais sans être plus précis. Oui, ils prennent un gros risque, mais en même temps, ils veulent parler. Ils veulent vraiment qu'on parle de leur conflit, de ce qui leur arrive, parce qu'ils ont l'impression d'être complètement isolés. Quand je dis ils prennent un risque, j'ai cette anecdote. Donc c'était 6 mois après le début de la guerre, de ce jeune qui habitait à Bari, donc qui est un des quartiers de Khartoum, qui est encore contrôlé par les forces de sécurité rapide. Il s'appelle Rama.
Les FSR sont partout. Ils quadrillent le quartier toute la journée. S'ils vous entendent parler au téléphone, vous allez avoir des ennuis. Dans mon quartier, il y a plein d'histoires de gens qui se sont fait tuer dans leur maison par ces hommes. Toutes les maisons autour de moi sont vides et ont été pillées par les FSR qui prennent tout, les meubles, les motos, les voitures, et les revendent. Tous les magasins de mon quartier sont fermés. Il y a juste des petits marchés, des étals où les gens vendent des produits volés. Pour manger, je cherche dans les maisons voisines, car toutes les maisons sont ouvertes. Les portes ont été défoncées par les FSR. Je peux facilement m'y glisser la nuit pour chercher de la nourriture.
À l'époque, j'arrive à le joindre et pour pouvoir me parler par Internet, il fallait qu'il monte sur le toit de sa maison pour pouvoir avoir du réseau. Sauf que comme il était dans un quartier contrôlé par les FSR, s'il était sur le toit, il se faisait tirer dessus. Donc ce que je faisais, c'est que je lui envoyais une question. Il montait sur le toit, il downloadait enfin, le message, il redescendait chez lui, il écoutait, il répondait, il remontait sur le toit et il me renvoyait sa réponse. Et donc on dialoguait comme ça. Donc on a dû se parler une fois, deux fois directement et après c'était par message vocaux, oui.
Du coup, tu sais jamais quand est-ce que tu vas pouvoir joindre les gens, quand est-ce qu'ils vont t'envoyer un message. J'imagine que c'est assez compliqué pour suivre quand même quotidiennement ou en tout cas de manière hebdomadaire ce qui se passe un petit peu.
Oui, bah ça se fait pas sur une journée. Ça m'est arrivé, oui, de partir une fois. Bah justement, je pense que c'était avec Rama à Paris où je pars, c'est vendredi soir et puis à 10h, je reçois un message en disant « je peux te parler ?» Et du coup, bah, je reviens rapidement à la radio. Donc oui, il faut savoir s'adapter à leur emploi du temps, c'est-à-dire quand ils ont Internet.
En tout cas, tu le disais, ils ont vraiment envie de témoigner de ce qui se passe dans leur pays.
Oui, oui, oui. Je crois que j'ai jamais eu quelqu'un qui me dise « non, j'ai pas envie de parler ». La difficulté, ça a toujours été de trouver des gens. Mais même là, il y a une telle envie de témoigner de ce qui se passe qu'il y a toujours quelqu'un qui va trouver « attends, je vais te trouver quelqu'un qui habite dans tel quartier ». Et avec ce réseau, on finit toujours par pouvoir parler à quelqu'un. Et la difficulté, c'est plus l'accès à l'Internet.
Quand on a préparé cet épisode, tu m'as confié aussi que parfois tes interlocuteurs te demandaient des services. On comprend que la situation est extrêmement difficile pour eux et qu'il ne fallait pas confondre ton rôle de journaliste avec la détresse qui est émise par ces interlocuteurs. C'est compliqué, ça ?
Oui, et je pense que ça l'est sur tout ce genre de crise. C'est pas juste le Soudan, c'est partout pareil. On arrive et il y a une telle détresse qu'il faut rester un petit peu, arriver à prendre du recul. Là, c'est pareil. Un exemple d'un déplacé congolais qui s'était retrouvé coincé à Khartoum avec toute sa famille, plusieurs familles d'ailleurs, quand la guerre démarre. Il vivait sur un terrain vague à côté d'une position des forces de soutien rapide.
On tire devant nous, c'est devant nous, des tirs lourds, tout se passe devant nous. C'est très dangereux pour les enfants, même nous aussi. Ils ne dorment pas bien, ils opèrent. Comment dormir bien avec des coups de balle comme ça? Et puis des tirs lourds, des avions aussi. C'est très dangereux, nous sommes au risque, grand risque. Ça demande l'urgence. Nous demandons le secours. Et puis on n'a pas à manger même. Depuis la guerre a commencé, on n'a même pas mangé. Il n'y a rien acheté. Pas de sortie. On a fermé toute la route. Pas de sortie.
Alors, je ne me rappelle plus comment je suis rentrée en contact avec lui ou lui est rentrée en contact avec moi. Et d'ailleurs, c'est ça aussi. C'est des fois, mon numéro est passé à des gens. Mais je ne sais pas qui ils sont. Ils m'appellent en me disant « oui, ça m'a été donné par... » Bref. Et ce Congolais m'appelait quasiment tous les deux jours pour me dire « voilà ce qui se passe, il faut nous aider ». Et c'était très difficile pour moi de lui faire comprendre « je peux prendre votre témoignage, je peux en parler à l'antenne, mais je ne peux pas faire plus ». Alors en l'occurrence, si j'ai fait plus, j'ai dû appeler le HCR en leur disant « attention, il y a plusieurs familles qui sont coincées là ». Mais voilà, je ne peux pas faire au-delà de ça, je n'ai pas de poids. À chaque fois, ils me disaient, mais il faut insister auprès du HCR. Je disais, mais je ne travaille pas pour le HCR, je ne peux pas non plus leur donner des ordres sur qui évacuer. Et puis, en l'occurrence, le HCR n'était plus là. Mais oui, c'est là aussi nos interlocuteurs qui sont pris dans leur détresse. Ben, un journaliste, c'est une ligne de survie. Donc, ils s'attachent à ça, ils tiennent à ça. Et ils ne comprennent pas toujours que ben, on ne peut pas faire plus.
Tout à l'heure, tu me disais que l'accès à Internet, il n'était pas facile. Est-ce qu'un an après, c'est toujours le cas ou pas ?
Oui, c'est la principale difficulté pour joindre les gens, c'est ça. Cet accès sur Internet qui était très bon au départ. Et puis, au fur et à mesure, les deux belligérants se sont rendus compte que c'est comme ça que les journalistes couvraient ce conflit. Et donc, des deux côtés, ils coupaient l'Internet. Alors, il y a eu des moments où il y avait plus d'Internet pendant un mois, donc on ne savait absolument pas ce qui se passait. Mais un an plus tard, l'accès est de plus en plus restreint, c'est sûr. Il y a quasiment plus d'Internet. Là, sur Omdurman, il y a eu deux mois sans Internet. Donc même les gens eux-mêmes avaient du mal à communiquer avec l'extérieur, parce que ceux qui sont restés coincés dans Khartoum essayaient de joindre leur famille qui avait pu partir. Donc pour eux, c'était très difficile, et pour parler aux journalistes. Quand on parle de l'accès à l'Internet, une chose qui est intéressante, c'est sur les dernières semaines, on a vu apparaître des réseaux qu'on appelle Starlink, donc qui est une connexion Internet via satellite, et qui a été mise en place dans certains quartiers par les belligérants eux-mêmes, les FSR notamment, donc les forces de soutien rapide du général Emeti, qui ont développé un commerce carrément. Ils ont une voiture avec une antenne satellite, et puis les habitants de ce quartier sont obligés de payer pour venir passer un coup de fil à leur famille qui a fui en Égypte, en Éthiopie ou en Grande-Bretagne. Et justement, une des personnes que j'essayais de joindre depuis deux semaines, il n'y a pas longtemps, un soir m'envoie un message en disant « c'est bon, là je suis connectée pour les trois prochaines minutes ». Et donc je l'appelle, et puis je prenais un peu trop de temps à lui poser des questions. Elle me dit « je suis désolée, mais il faut que j'y aille, ça coûte cher ». L'accès à l'information, et même dans ce conflit, est monnayé par les belligérants eux-mêmes.
La barrière de la langue, tu la rencontres régulièrement ou pas? Parce que vu qu'il y a pas mal de gens qui sont partis, j'imagine que tous ceux qui avaient un peu d'argent, qui parlaient anglais notamment, j'imagine qu'ils ont fui. Ça aussi, ça complexifie le travail ou pas?
Oui, ça c'est vraiment un problème assez important, puisque forcément, les gens à qui on parle sont des gens qui parlent l'anglais, donc qui ont des moyens financiers, qui ont un téléphone, et donc qui ne sont pas forcément représentatives de toute la population. Donc déjà, dans ce qu'ils peuvent vous dire, ils représentent une fraction de la population. Et en effet, ces gens-là ont été les premiers à quitter le pays. Donc ceux qui restent sont ceux qui ne parlent pas forcément l'anglais, qui sont moins indiqués, qui ont moins de moyens et qui sont du coup plus difficiles à joindre.
Cette situation, évidemment, depuis un an, elle est terrible. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir de belles histoires?
Oui, il y en a eu quelques-unes. La plus jolie ou la plus belle, hein, ça a été ces dernières semaines. Hein. Alors, quand je reprenais contact avec les gens pour les un an depuis le début de cette guerre, et ça a été ce Soudanais qui vit en Angleterre, donc maintenant qui est réfugié en Angleterre, et avec qui je conversais assez fréquemment, et qui un jour poste sur les réseaux sociaux, puisqu'évidemment, donc, je regarde beaucoup sur les réseaux sociaux, qui poste des photos de ce qu'on appelle des cuisines communautaires. Ce sont des cuisines qui ont été installées par des habitants dans un quartier, des gens qui avaient les moyens et qui mettent tout en commun pour donner à manger à ceux qui n'ont rien. Et cette personne, qui s'appelle Mohanad, qui habite à Manchester, a son cousin qui est resté dans un quartier de Khartoum, qui lui parle pas l'anglais et qui a monté une cuisine, et tous les deux ont monté une cuisine communautaire. Donc Mohanad, à Manchester, lève des fonds auprès de la diaspora, auprès des gens qu'il rencontre dans sa vie de tous les jours, sur Twitter. Il fait d'appels de fonds, il envoie tout ça à son cousin Mohanad, qui lui, tous les matins, prend son tuk-tuk et avec l'argent qu'il a réussi à avoir, va acheter des produits et ensuite cuisine et puis offre à manger aux plus nécessiteux. Et donc, toute la difficulté de parler à Yassim, donc, qui est le cousin resté à Khartoum, lui parlait pas l'anglais. Et donc, on a fait un appel à trois où je posais des questions, Mohanad les traduisait à Yassim qui était à Khartoum, et puis Khartoum répondait et puis Mohanad me traduisait. Donc là, c'était une belle histoire d'une initiative positive et d'une façon de faire sortir l'info, une façon de raconter ce qui se passe sur le terrain à trois.
Le témoignage de la débrouille, si j'ai bien compris, voilà. En tout cas sur le Soudan, c'est ton quotidien.
Oui, tout à fait. C'est essayer de trouver des témoignages, mais finalement, c'est quand même pas si compliqué que ça. Après, c'est plus s'adapter au manque de communication, au manque d'Internet. Mais trouver des gens, il y a toujours des gens qui veulent parler. Non.
Merci beaucoup, Alexandra, d'être passée dans Témoins d'Actu, me raconter tout ça.
Merci.
Et n'hésitez pas, si cet épisode vous a plu, intéressé, à le partager. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez également le retrouver sur notre appli Pure Radio. Je vous dis à très vite.